Voilà, la question est la suivante. La question est comment faire face aux problèmes de la vie? Comment gérer les situations difficiles? Est-ce qu'une situation donnée qui nous paraît une impasse totale, eh bien, est-ce qu'il faut se résigner au fait qu'il n'y a pas d'issue, pas de solution, et donc être transporté dans la déprime, le découragement? Ou alors se mesurer, essayer de se battre, ou alors, encore mieux que cela, essayer de comprendre quel est le message divin qui est véhiculé par ce problème. Alors, on va tout de suite aborder le cas bien connu dans notre Torah de Yosef HaTzadik. C'est un exemple flagrant de cela. Yosef HaTzadik, il a été éjecté en prison. Il a passé en prison 12 années de sa vie. Les années, on peut dire, parmi les plus belles d'une personne, de 18 ans à 30 ans. Et a priori, il avait toutes les raisons de se décourager. Il n'y avait aucune heure d'espoir. Il faut se rappeler que les prisons à l'époque, ce n'est pas comme de nos jours, c'était un trou. C'était une grotte. Il n'y avait rien. Pas de lumière, pas de courante. C'était des conditions graves. Et en Égypte, un prisonnier ne sortait jamais. Et le temps passe. 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans. Et il n'y a même pas de jugement. Il n'y a aucune raison de le sortir. Prison à vie. Un homme ordinaire aurait perdu la raison dans telle situation. Un Midrash dit que Yosef HaTzadik, presque tous les jours se mettait à chanter et à danser dans la prison. Il est sûr et certain qu'il avait de grandes capacités humaines, c'est vrai. Il n'a pas eu de prophétie. Hachem n'a jamais parlé. Il avait toutes les raisons, de se persuader qu'il a tout perdu. Ils auraient pu se dire, ok, j'aurais pu mériter être un des grands, n'est-ce pas, comme les grands patriarches de notre peuple, mais j'ai tout raté. Parce qu'il s'est mis à critiquer ses frères. Ses frères l'ont vendu. Surtout qu'il voit que le temps passe. 10 ans, 11 ans. Donc il s'est dit, même si Hachem m'a réservé un avenir royal dans le domaine spirituel, j'ai tout perdu. Mais cependant, il ne se décourageait jamais. Alors, parce qu'en effet, c'était sa devise, sa conception. Il était persuadé que, il n'y a pas de hasard. Comme il a dit après ses frères quand il est sorti, « Lo'atem shelachtem otiena » Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Hachem qui m'a envoyé pour nourrir le peuple d'Égypte ainsi que le monde entier, à cause de la famine. Il y a encore d'autres raisons.
Il savait qu'il allait sortir.
Il savait ou il ne savait pas. Il n'y a aucun midrash, aucun verset qui nous donne signe de cela.
S'il savait qu'il allait nourrir tout le peuple.
Non, il ne savait pas. Quand il est sorti, il a dit ça à ses frères. Il leur a dit, en fait, n'est-ce pas, sachez que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Hachem. Et en fait, c'est ça sa devise. Il était persuadé qu'en fait, il n'y a personne au monde qui peut te faire du tort. Vous savez, la plupart des problèmes qu'une personne a, c'est précisément parce qu'on accuse consciemment ou inconsciemment les autres. C'est à cause de mes parents, de mon frère, de mon camarade, de mon épouse, de mon mari, on accuse toujours les autres. C'est à cause de lui que j'ai raté. D'abord consciemment, aussi inconsciemment. On se le dit, on se le répète, on le pense, on le dit à l'autre. Et là, n'est-ce pas la tendance ancienne? Le contraire. Il faut la émouna, qu'en fait, personne ne peut te faire du tort. Le tort qu'on te fait, ça provient uniquement de ton niveau spirituel. C'est-à-dire qu'il faut savoir ça dans toute la Torah. Dans toute la vie. Ce qui gère le monde, ce qui va décider ce qui va se passer, ça dépend uniquement de ton niveau spirituel, de tes mitzvot et de tes averot. C'est-à-dire qu'il y a certaines averot qui vont déclencher quelque chose au ciel et qui vont faire en quelque sorte que telle personne va vouloir te faire du tort, va te vexer, va te renvoyer du travail, va t'insulter, etc. Voilà, comme l'exemple bien connu. La Gemara raconte que Mordechai, après le décret de Haman et de Achashverosh, il a rencontré et il a un avis. Apparemment, il le voyait souvent. Bon. Et il lui a dit, dis-moi, que se passe-t-il au ciel? Est-ce qu'au ciel, il y a un décret d'anéantir Amisraël ou pas? S'il n'y a pas un décret, alors Haman, il peut baratiner, Achashverosh aussi, il n'y a pas à s'inquiéter. La veille du décret, eh bien, ils ont une crise cardiaque ou autre chose et c'est terminé. Mais s'il y a un décret au ciel d'anéantir Amisraël, eh bien, en effet, il faut prendre des précautions. Et le Navi lui a dit, en effet, au ciel, on a déclaré qu'il faut anéantir Amisraël, éliminer. Bien qu'on ait une promesse que jamais Amisraël sera éliminé totalement, il était question de laisser en vie Esther Amalka et de faire naître par elle un nouveau Amisraël. Quand Mordechai a entendu ça, il a pris peur. Il a réuni tous les enfants de la ville de Shushan, 22 000 enfants au total, pour les faire prier, jeûner, étudier. Il a envoyé Esther chez le roi. Bon, vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe? Les Bnei Israël, 9 années auparavant, ont commis 3 fautes. Idolâtrie. Ils ont participé au festin de Achashverosh. Et ils ont constaté qu'Achashverosh, dans ses festins, a sorti les sensibles de Tamikdash, les a utilisés, et ils n'ont pas protesté. Ces fautes-là ont déclenché un décret au ciel d'anéantir Israël. Une fois que le décret est lancé, eh bien, on va chercher sur terre un cobaye pour mettre en œuvre cela, qui va s'appeler Haman, Achashverosh, Hitler, Paro, Arafat, Hussein, etc. Hachem pas, il cherche des cobayes, mais c'est toujours, ça dépend de notre conduite. C'est nous qui gérons le monde par notre niveau spirituel. Si aujourd'hui en Israël, on veut prendre toutes les yeshivot à l'armée, on veut nous empêcher de faire la Torah, tuer la Torah, c'est pas le problème, c'est nous. C'est parce qu'il y a un relâchement dans notre étude. Comme dit l'Agma, Vayechan Birfidim, Shirafu, Yedemina Torah. Quand on se relâche de la Torah, eh bien Amalek intervient. Ben voilà Amalek. Amalek n'est pas seul. C'est pas lui qui décide. Lev Melachim, Vesarim, Yad Hashem. Le cœur des rois, des ministres, des présidents, eh bien, dépend d'Hashem. Lorsqu'on se relâche de la Torah, automatiquement, au ciel, il y a un décret, et on cherche sur terre un ennemi qui vont lancer un décret de nous empêcher d'étudier la Torah. En fait, c'est le décret, pourquoi est-ce qu'il vient? C'est pour nous appeler à Tshuva. Pour dire, attention, messieurs les Bachor Yeshivot, votre Torah, elle laisse à désirer. On n'étudie pas assez, on étudie en rêvassant, ou alors on se relâche un peu, ou alors on étudie, mais on aime bien aussi profiter un peu trop des plaisirs et des loisirs de ce monde-là. Ça concorde pas au niveau spirituel qu'un étudiant en Torah à plein temps doit s'imposer. En fait, c'est cela. C'est le Rambam le dit dans Mishneh Torah, Ilchot Ta'anit Perek Bet, Halakha Bet. Quand il y a un décret, eh bien, dire que c'est la nature, même s'il y a un volcan, un tremblement de terre, dire que c'est la nature des choses, ils disent que c'est une façon cruelle de se conduire. Parce qu'on oublie la Emouna, on doit comprendre qu'il y a ici un message divin qui a été envoyé. Ça dépend uniquement, n'est-ce pas, de notre niveau spirituel. Alors, par aussi, quand quelqu'un te dérange, au travail, à la maison, alors, ça n'a pas de rapport direct avec lui. Parce qu'en fait, la claque que tu as prise, l'insulte que tu as entendue, eh bien, c'est une souffrance qui a été décrétée au ciel auparavant. Le jour même ou alors auparavant. Évidemment, ça ne veut pas dire que lui, il a raison. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il faut faire la part des choses. C'est que nous, on doit, n'est-ce pas, entre guillemets, encaisser. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué hier, il faut accepter les galères de la vie. Mitoch achna'a, ahava, simcha. Il faut se soumettre à Hachem. Ahava, il faut même, n'est-ce pas, intensifier d'amour pour Hachem par rapport à une telle galère. Et il faut aussi même accepter si on ne peut pas simcha. Maintenant, il y a en parallèle un autre domaine qui n'a rien à voir. C'est qu'on a la permission, même le devoir dans certains cas, de lui faire à lui le reproche. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Non pas parce que tu m'as vexé. Pas du tout. Moi, je devais être mis en place. Ok, par Hachem. Mais cependant, toi aussi, tu es un torseur. On doit le faire reproche uniquement pour son bien, pour la Torah, pour Hachem. Si tu as un reproche à me faire, ok, mais fais-le d'une façon différente. Fais-le pas en public. Donc on a, n'est-ce pas, un travail qui s'appelle Nafshi Ka'afar Lakoltier. C'est on prie tous les jours, matin, midi et soir, toute notre vie. Nafshi Ka'afar Lakoltier. Que mon âme, elle soit comme de la poussière, c'est-à-dire que je puisse encaisser tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent et apathique dans la vie, pas du tout. On n'est pas, il faut être plein de dynamisme. C'est ça, on est accepté Be'ava Be'simcha. C'est quoi Be'simcha? C'est que malgré les galères, tu vas redoubler encore plus de motivation, d'intérêt, d'initiative pour la Torah et les mitzvot. Ça ne va pas t'empêcher de te briser. Au contraire, comme Yosef HaTzadik dans sa prison, il se mettait à chanter, à danser, il se préparait à un avenir. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas l'avenir. Mais il s'est dit, si Hachem m'a embarqué ici, si Hachem m'a envoyé ici, ce n'est pas mes frères, ce n'est pas eux. Hachem m'a envoyé ici parce qu'il y a une raison, laquelle je ne connais pas. Donc être découragé, brisé, ça ne va mener à rien. Je dois gérer la situation donnée de façon parfaite, de façon maximale possible. L'avenir, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il y a de grands tzadikim qui ont eu de grandes épreuves, mais jamais, voilà, on a parlé de la Shoah, le Rav Avraham Grudzinski. Il a passé quelques années dans la Shoah, il avait tous les jours le sourire aux lèvres. Après, il a raconté à quelqu'un parce qu'en fait, il s'est travaillé dans ce domaine-là avant la Shoah pendant 2 années. Pendant 2 ans, tous les jours, il a fait un travail personnel, d'être toujours souriant. Jusqu'au point que même dans la Shoah, il gardait le sourire. Encore une fois, c'est un niveau qui nous dépasse. Mais juste pour vous dire, c'est que ça existe. Ça existe, une notion pareille, qu'en fait, il n'y a personne au monde qui peut t'enlever ton bonheur, ta joie, la façon de vouloir gérer ta vie. Et tu as décidé, n'est-ce pas, de penser comme cela, de faire comme ça, d'être content, d'être heureux, pas parce qu'une personne t'a dérangé, t'a dit un mot de travers, t'as pas honoré, t'as pas donné ce que tu attendais de lui, que tu dois être déprimé et que tu dois l'accuser, être révolté contre lui constamment. Tu sais, des fois, les gens ils se mettent à rabâcher des vexations d'il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ils disent que à cause de lui, j'ai raté ma vie. À cause de lui, j'ai loupé. Ça n'arrive à rien. D'abord, c'est faux. Deuxièmement, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas efficace. Je vous ai raconté il y a quelques mois qu'ici à Ramot, c'était au Yosef, alors je faisais la Amida. Alors, je tardais un peu. Alors, quand j'ai fini, je me suis rendu compte qu'il y avait en face de moi un rab ici, un grand Talmid Chacham, qui m'a attendu. Alors, je me suis excusé de l'avoir fait attendre. Alors, il m'a répondu, il m'a dit, Loi fratali birklal, tu ne m'as pas dérangé du tout. Azartali le kayem halakha bishranaou. Tu m'as aidé à accomplir une halakha bishranaou. Une halakha qui dit que quand quelqu'un est derrière toi et il fait l'amida, tu dois l'attendre. Si c'est dans les 4 amot, pas les 4 pas, tu l'attends. Tu ne m'as pas dérangé. Tu m'as aidé à accomplir une halakha. C'est ça la conception qu'on doit avoir. C'est que personne ne te dérange dans la vie. Quand il te dérange, alors consulte la Torah. Que dit la halakha? La Torah, le moussar, demande conseil, n'est-ce pas, auprès des rabbanim. Comment réagir face à telle situation? Et quand tu vas faire un effort d'adopter la situation meilleure, qui va être l'excellence humaine, en fin de compte, cet homme-là ne t'a pas dérangé. Il t'a aidé, il t'a donné l'occasion d'accomplir une halakha. Dans telle situation, comment est-ce qu'on réagit? Le Gaon Mivilna, à la fin de sa vie, a été emprisonné par des goyim. C'était Soukot. Soukot. Il a passé les 4 premiers jours de Soukot sans souka. Imaginez-vous. Le Gaon Mivilna, quand il était déjà, n'est-ce pas, un grand Gaon, Tzadik Hassid. Pourquoi Hachem fait ça? On ne sait pas. Pourquoi Hachem empêche un si grand Tzadik de faire les mitzvot? On ne sait pas pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas brisé. Il conservait la joie parce qu'on a Zman Sibratenu, il s'empêchait de dormir, bien qu'il avait le droit, mais bon, c'était Chassidou. Il s'empêchait de dormir, il tenait même pas ses paupières pour ne pas s'endormir autant que possible. Bon, pas dormir 4 jours, c'est impossible. Il s'empêchait d'avoir quelques secondes, quelques minutes à droite à gauche. C'est-à-dire que chaque situation difficile, il ne s'agit pas de faire un constat d'échec et de dire, ça y est, on a loupé, on a dérapé, il n'y a aucune chance. c'est terminé, c'est loupé, à cause de lui, à cause d'elle, ça n'arrive à rien. C'est pas ça du tout. L'essentiel, c'est de faire un bilan et de décider quelle est la meilleure réaction à adopter par rapport à telle ou telle situation. C'est ce qu'a fait Yosef Hatzadik dans sa prison. Il a dit, je suis là. Ok, je suis ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, il s'est mis apparemment, n'est-ce pas, à réfléchir, à analyser, à méditer. Il s'est élevé, il a progressé. Sinon, ça aurait été impossible qu'il soit le vice-roi de l'Égypte, qui était à l'époque la puissance mondiale numéro 1, à l'âge de 30 ans. S'il ne sait pas que pendant ces 12 années, eh bien, il a fait un travail constant sur lui-même. Donc en fait, des fois, ça nous amène un problème, une galère de santé, de finances, de famille, de... Je sais pas, on se cherche. Alors, le fait de subir la situation et de traîner, n'est-ce pas, son problème comme un boulet, c'est pas efficace. Parce qu'un temps viendra, où tu vas sortir de ta prison, comme ça se dit, on te dit, vas-y, maintenant, tu dois être le roi, le président. Alors, si tu as su exploiter les galères qu'Hachem t'a envoyées pendant quelques mois, quelques années, eh bien, en effet, tu pourras être un roi comme l'a fait Yosef Hatzadik. Mais si tu as traîné ton boulet en train de râler, de rouspéter constamment, évidemment, on ne pourra pas le faire. Donc en fait, chaque situation difficile, ce n'est pas un obstacle, mais c'est pour t'aider, c'est pour t'initier. Pour t'initier à surmonter des situations qui sont tellement délicates, tellement complexes. Ken.
Quand on subit quelque chose, peu importe, mais comment on fait pour justement ne pas le traîner comme un boulet, cette situation qui va nous abroger?
C'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est qu'en fait, là, c'est d'abord la émouna, comprendre que le problème n'est pas un problème. Le problème, c'est une aide.
On ne peut pas l'ignorer.
Non, on n'ignore pas. Yosef n'ignorait pas qu'il était en prison. Ignorer, c'est en fait assez absurde, c'est pas cohérent du tout. C'est pas l'ignorer, mais c'est se mesurer à ce problème et essayer d'adopter la réaction la meilleure possible par rapport à tes situations. D'abord, la Emouna. Comprendre que Hachem a envoyé ça. Deuxièmement, Hachem ne veut pas notre mal. Hachem veut que notre bien. Tov Hachem, la colle, on dit tous les matins. Tov Hachem, la colle. Hachem est bon pour tout le monde, dans tous les cas. Cependant, eh bien, sa hanaga, sa conduite, elle est cachée, comme on l'a expliqué hier. Tu prends un médicament qui est amer. C'est amer. On ne fait pas une piqûre, ça fait mal. Il n'y a pas de solution, on fait une opération. Ça fait mal l'opération. Parce que c'est la seule situation de sauver l'enfant. Alors Hachem aussi sait que la seule situation de nous amener à la réussite, au bonheur, on l'a expliqué hier, ce n'est pas uniquement ce qui était agréable à l'instant, mais ce qui est le bien, le tov à longue échéance pour notre Neshama. Et ça, on pourra le voir après quelques mois, quelques années. Il y avait une histoire en Israël. Un couple n'avait pas d'enfant pendant de longues années. Bon, et en fin de compte, ils ont eu un enfant. Et après, ils ont témoigné qu'en réalité, c'était un chesed, c'était un bien d'Hachem qu'ils n'aient pas eu d'enfant pendant 100 années. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle grande divergence entre les deux, point du caractère, mentalité, etc., qu'il fallait qu'il n'y ait aucune perturbation entre eux, même pas d'un enfant, pour qu'ils puissent eh bien, se connaître, s'unir, et gérer n'est-ce pas, les différences de caractère, etc., pour arriver à une union plus ou moins parfaite, et ensuite éduquer des enfants comme il faut. Bon, c'est un cas spécial. Pas toujours c'est comme ça. Pas toujours on arrive à analyser, à comprendre le comment et le pourquoi. Mais d'abord, il faut la émouna. Et c'est pourquoi aussi on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que inconsciemment, on se révolte. Inconsciemment, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord à se résigner au problème d'Hachem, au problème eh bien, de son épouse, de ses parents, de ses camarades, on n'est pas prêt à baisser la tête. Alors, je répète encore une fois, baisser la tête, se soumettre, c'est pas, n'est-ce pas, c'est pas se résigner et dire oui, n'est-ce pas, être abattu, c'est pas du tout ça. C'est accepter, ça les kabel, accepter la situation donnée, ne pas se révolter, comprendre que c'est Hachem qui l'a envoyé, comprendre que c'est pour ton bien, comprendre que c'est la meilleure situation eh bien, qu'on aurait pu t'imaginer. Et ensuite, eh bien, chercher de quelle façon gérer tes situations. Alors, des fois, en effet, il faut sortir du problème. Viens changer d'endroit. En effet, c'est ce qu'Hachem veut de toi. Tu dois, n'est-ce pas, crier à Hachem. Tu dois avoir plus de sruyot pour accélérer le processus de la guérison. Processus de la geoula. Mais ça, c'est une phase ultérieure. Première phase, c'est la emouna. Accepter, comprendre, et bien qu'en fin de compte, c'est pour le bien. Nega et oneg, ce sont exactement les mêmes lettres. Nega, c'est un vice, une plaie. Alors que oneg, c'est un plaisir. Parce qu'en fait, eh bien, les deux sont exactement pareils. La différence, c'est uniquement l'ordre des lettres. Le Aïn, n'est-ce pas, lettre Aïn, qui est aussi symbole de la vision, est-ce qu'elle est à la fin ou au début ? C'est-à-dire, est-ce que ta vision, elle est arriérée, elle est subjective ? Ou alors non, n'est-ce pas l'objectif ? Est-ce que tu vois la situation de façon positive ou alors de façon négative ? C'est ce qui fait toute la différence. Même situation. Voilà, on a raconté aussi ça à Yishva il y a quelques mois. Il y avait une histoire véridique. Sur une plage, eh bien, deux frères jumeaux étaient en train de jouer. Et tout d'un coup, il y a une vague qui a submergé tous les deux. Et tous les deux, ils ont bu la tasse. L'un d'eux s'est mis à pleurer et il a réclamé à sa mère. Son frère jumeau, il a éclaté de rire, il a couru vers les vagues. Alors pourquoi ce garçon a pleuré ? À cause de la tasse qu'il a bu ? Pas du tout. Parce que si c'était le cas, son frère aurait dû réagir de façon identique. Donc en fait, la tasse que tu as bu, la galère que tu es en train de passer, ne fait ni pleurer ni rire. Ce qui va te faire rire ou pleurer, c'est uniquement la façon dont tu vas communiquer avec ton subconscient. De quelle façon tu vas analyser tel ou tel événement ? De façon positive ou de façon négative ? On a toujours le choix, la possibilité, eh bien, de transformer néga en oneg ou oneg en néga. Ça dépend de quelle façon tu prends le message divin qu'Hachem t'a envoyé. Et ça démarre de ça. Comprends bien qu'il y a ici un message divin. Et sachez, plus on va être imprégné de cela, plus on va se remplir de Emouna, plus on verra l'âge gratuit, plus on verra qu'en effet, eh bien, chaque élément est amené min haShamayim pour ton bien, de façon précise. Voilà, on dit dans le ciel tous les matins, matin et soir. Ve'avta et Hashem Elokecha, v'chol levavcha, v'chol nafshecha, v'chol me'odecha. Aimer Hashem de tout ton cœur, toute ton âme, et me'odecha, toute ta force. Il y a plusieurs perushim. Un des commentaires dit, v'chol mida, me'odecha, c'est me'od. Me'od, c'est beaucoup. V'chol mida, ou mida, shu moded lecha, heve modelo, bim od me'od. C'est-à-dire que chaque mesure qu'Hashem va te mesurer, il faut beaucoup le remercier. C'est quoi Mida Modèle Lecha? Hachem te donne la mesure exacte. Tu prends par exemple un tissu, tu amènes chez le tailleur pour un costume. Voilà, faites-moi, n'est-ce pas, la longueur, tant de centimètres. Alors s'il a fait non pas 1m20, mais 1m21, tu ne vas pas, n'est-ce pas, lui faire un point là-dessus. Ou alors 1m20 plus 2 mm, ce n'est pas grave. Bon, tu comprends. Pour Hachem, c'est différent. Pour Hachem, sa mesure, elle est ensofi, c'est-à-dire qu'elle est mesurée au millimètre près à l'infini. C'est-à-dire c'est exactement ce qu'il te faut. Ni plus, ni moins. On a aussi la preuve de cela. Eh bien, Israël en Égypte, eh bien, Hachem les a délivrés. Et lorsque le moment de la Géoula est arrivé, ils ne sont pas restés un instant de plus. Pas un instant de plus. Pourquoi ? Parce que rester plus, ça aurait été dangereux pour leur niveau spirituel. Ils n'ont même pas eu le temps de faire monter, n'est-ce pas, la pâte pour faire du pain. Alors pourquoi Hachem a attendu le dernier moment ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas fait sortir une semaine à l'avance, un jour à l'avance, un mois à l'avance ? Impossible. Parce qu'il fallait qu'il reste en Égypte tant de temps. Il y avait des tikkunim à réaliser. Sortir à l'avance, eh bien, c'est manquer quelque chose. C'est la Gemara dit dans Avodah Zara, je crois, Daf Ayiné, que sur le verset. Dans Kitavo, Cholaim, Ra'im, Venemanim. Que des fois Hachem il envoie, eh bien, des problèmes, des galères qui sont némanim de confiance. C'est quoi de confiance, dit l'Agma? L'Agma dit que lorsqu'on envoie une galère, une souffrance à quelqu'un, Mashbi'im et Aïsurim, on les fait jurer au ciel. Vous allez aller jeter la personne, lui donner, n'est-ce pas, une rage de dents pendant une heure et demie, une angine pendant une semaine, une grippe pendant 5 jours, une grave maladie, khayla, un cancer, pendant 4-5 mois. Pas plus ni moins. tant de jours, tant de semaines, tant d'heures, tant de minutes. Top. Lorsque le jour arrive où la souffrance doit être terminée de la personne, la Gemara dit, que se passe-t-il si cet homme-là, il a tout fait. Il a fait la médecine normale, il a fait, n'est-ce pas, l'homéopathie, il a fait la diététique, il a fait toute la médecine douce, médecine chinoise, rien ne marche. Rien et tout. Kinésiologie, psychologie, rien ne marche. Tout d'un coup, il passe devant une maison d'idolâtrie. Et il a entendu auparavant que bon, qu'il y a certains services idolâtres qui peuvent guérir. Il s'est dit, bon, j'ai tout essayé, pourquoi pas? On va essayer. Dans sa déprime, son découragement, il rentre là-bas. Et là, n'est-ce pas, les souffrances, dit la Gemara, les Issourines, se disent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si maintenant on le quitte comme on a promis à Hachem, il va être persuadé que c'est grâce à l'idolâtrie qu'il a été guéri. Mais il n'y a pas le choix. On l'a juré devant Hachem, on doit le quitter. Et en effet, il quitte cet homme-là, c'est toujours précis. Et l'homme, il est persuadé que c'est grâce à l'idolâtrie ou grâce, n'est-ce pas, une autre médecine, sorcellerie, qui est interdite par la Torah, qui a été guéri. Il n'y a pas le choix. Pour vous dire qu'à tel point, c'est mesuré, c'est médiocre. Des fois, un autre exemple. Même sans idolâtrie. Un homme, il a fait plusieurs médecines, ça ne marche pas. Il y a un copain qui lui a dit, écoute, essaye, je ne sais pas, l'homéopathie ou kinésiologie. Non, laisse-moi, je n'aime pas, j'ai un petit normal, je n'aime pas ces nouveautés-là, j'y crois pas. Bon, après 3 ans de galère, il s'est dit, bon, je vais essayer. Il va chez un grand homéopathe ou alors un grand kinésiologue. Bon, et ça a marché. Ça a marché. Après, il s'est dit, ah, c'est dommage, si je t'avais écouté, il y a 3 ans, j'aurais évité 3 ans de souffrance. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Parce qu'auparavant, au ciel, on a décrété que tu devais galérer pendant 3 ans. Et c'est pourquoi Hachem, en fait, t'a mis dans la tête d'essayer des médecines qui n'allaient pas te guérir. Parce que le temps de la guérison n'est pas encore arrivé. Une fois que le temps de la guérison est arrivé, on te met dans l'esprit, ou alors tu as vu une publicité, ou alors un copain t'a dit, eh bien, va essayer tel médecin chinois, il va t'aider. Et là, ça marche. C'est-à-dire qu'il faut, n'est-ce pas, toujours la émouna que même dans la guérison, se diriger ainsi. Alors, je répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. On peut, on doit aller chez le médecin, prendre des médicaments, on doit prier à Hachem. On doit augmenter de Nahon, ça paraît contradictoire. Nahon. C'est écrit que la guérison et la parnassa, c'est une des plus grandes épreuves de l'humanité. Que tu dois travailler, tu dois prendre des médicaments et tu dois avoir la émouna que c'est Hachem qui t'envoie tout ça. C'est ainsi, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, ça dépend de ta émouna que tu as. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir la émouna qu'en fait, la maladie a été décrété pendant un certain temps. Maintenant, il y a une condition que tu vois le médecin et médicaments. Sans ça, ça ne marche pas. C'est une condition extérieure, mais une condition. Maintenant, il arrive des cas que tu as vu 36 médecins, ça ne marche pas. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Et ça, on le voit. Il y a des gens qui guérissent tout de suite, d'autres ne guérissent pas. C'est ça la raison. Et tu as vu un nouveau médecin, ça marche. Et pourquoi tu as eu l'idée d'aller chez le nouveau médecin? Parce que, eh bien, le temps est arrivé, alors, Mina Shamayim, on te dirige vers telle guérison. Et je répète, on peut accélérer le processus de Geoula de Yeshua par la prière, ainsi que par les Sruyot. Rabbet Sraim, ses enfants voulaient absolument qu'il fasse une assurance à la maison. Il ne voulait pas. Il a dit non, c'est pas impératif, c'est ça, Bitor Hashem. Donc, et en fin de compte, ils l'ont fait sans qu'il le sache. Quelques semaines après, la maison a brûlé. Et on dit, tu vois, heureusement que... Il leur a dit, exactement le contraire. C'est à cause de vous. Sans l'assurance, la maison n'aurait pas brûlé. La dépense que tu dois avoir est décidée. Alors, quand tu as une assurance, tu es assuré. Donc, la dépense, c'est que 10% de l'appartement. Ça, tu le mérites, tu vas le perdre. Il y a 45 ans, à Paris, il y avait un pharmacien. Religieux, juif religieux, était marié avec une fille. Et il cherchait une place de pharmacien dans Paris. Et avec Shabbat, jour de congé. Bon. Et évidemment, toutes ses demandes étaient refusées. Il avait un camarade célibataire qui s'appelle aujourd'hui le Rav Ben Zaken de Guilo, ceux qui le connaissent, qui était un copain lui et qui même l'aidait financièrement parce qu'il n'avait pas de quoi vivre. Et puis, il fait des centaines de demandes, tout est refusé. Parce que samedi, évidemment, dans les pharmacies, c'est important, le dimanche est déjà fermé. Bon. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, toutes ces centaines de demandes sont refusées. Après presque un an de recherche, son copain lui montre qu'il y a une place vacante dans une pharmacie qui se trouve aux Champs-Élysées. Il se dit, tu te moques de moi, on m'a refusé partout aux Champs-Élysées, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Sa femme lui dit, qu'est-ce que tu perds? Fais la demande, on ne sait jamais. Il a fait la demande, après 15 jours, il est convoqué. Il se présente, il voit une pharmacie énorme de 3 étages, dans laquelle travaillaient 70 employés. Il se présente, on lui dit, madame la directrice, madame qui dirigeait, vous attend au 3e étage. Il monte à l'étage, il se présente, la femme le fait rentrer, elle le fait asseoir, elle lui montre sur son bureau une pile d'enveloppes et de lettres. Elle dit, monsieur constaté, j'ai ici plus de 300 demandes. 300 demandes. La seule demande que j'ai retenue, c'est la vôtre. Pourquoi? Parce que moi, je suis la directrice, mais comme je suis absente très souvent, je cherche un sous-directeur. Je cherche quelqu'un qui puisse me remplacer, qui puisse être mon bras droit. Et comme je ne sais pas qui est engagé, j'ai peur d'être triché, je donne les réponses à personne. Quand j'ai vu que vous demandez au samedi jour de congé, et je sais qu'à Paris, c'est mission impossible, je me suis dit, quelqu'un qui est si fidèle à ses principes de religion, je peux compter sur lui, les yeux fermés. C'est pour ça que vous le voulez bien, je vous nomme sous-directeur de la pharmacie. Et en fait, comme elle était absente, c'était lui le directeur de la pharmacie. Vous voyez? Donc en fait, ce n'est pas le Shabbat qui t'a fait rater toutes les places. Au contraire, le Shabbat t'a donné les meilleures places. Mais Hachem te dit, eh bien, tu te tiens au Shabbat, fais tes preuves. Tu vas devoir galérer pendant 6 mois, 9 mois, 10 mois, et après la Yeshua arrive. Alors évidemment, c'est pas, des fois, ça a pris une semaine, après un mois, après 10 ans, ça on ne sait pas. Ça, c'est Hachem qui décide. On peut déclencher la Yeshua par la Emouna, qu'en fait la situation, eh bien, c'est la meilleure possible, et chercher le message divin dans chaque situation.